Comment est-ce possible? Comment Marie a-t-elle vraiment embrassé le visage de Dieu quand elle a embrassé son enfant? L'enfant Jésus est-il vraiment Dieu? C'est une question sur laquelle on va réfléchir. Et si on peut dire oui, alors qu'est-ce que cet enfant nous apprend? Qu'est-ce qu'il nous apprend de Dieu? Est-ce qu'un petit enfant, un petit bébé comme ça peut nous apprendre quelque chose de Dieu? Et on a lu le grand texte de Luc tout à l'heure, on complétera par un texte de Matthieu, beaucoup plus court dans un instant. Mais voilà un petit peu ce qui m'a parlé dans ce premier texte de Luc. Repassons avec nous quelques phrases de ce texte, au chapitre 1, verset 32. Voici, lors de l'annonce de l'ange, voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et n'aura point de fin. Une éternité, ne pas avoir de fin, ça la parle de la divinité. Un roi éternel. Et quand on connaît ça, on continue, on a une naissance surnaturelle. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Une naissance surnaturelle où Dieu lui-même intervient. Jésus, Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Mais comment on le voit encore d'une façon plus théologique? C'est que le mot Seigneur ici, c'est un attribut de Dieu. C'est la façon dont on parlait de Dieu. On parlait en utilisant cette expression Seigneur. On le voit aussi dans notre texte ici. On l'a lu au verset 28. Je lis, l'ange rentra chez Marie. Je te salue, toi, une grâce a qui été faite. Le Seigneur est avec toi, dit-il. Un petit peu plus loin, nous lisons, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta pensée. Et l'ange la quitta. Et là, il s'agit bien de l'Éternel, du Dieu d'Israël dont il est question. Un petit peu plus loin, au verset 43, lorsque Marie visite Élisabeth, Élisabeth s'écrie d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» La mère de mon Seigneur. Et donc là, dans cette phrase, on voit que l'Esprit Saint qui a inspiré Élisabeth indiquait clairement, cet enfant est Dieu lui-même. On le voit un petit peu plus loin encore au verset 45. Heureux celui qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Comment comprendre cela? Jésus dira lui-même plus tard, avant qu'Abraham fût, je suis de toute éternité. Il dira aussi, celui qui m'a vu a vu le Père. Et donc, il n'y a pas un moment dans la vie de Jésus où il serait devenu divin. Non, c'est dès sa conception, dès le commencement, qu'il en était ainsi. Vous le savez, les commandements de la Bible, le deuxième en particulier, nous interdisent de faire des représentations de Dieu. parce que toutes les représentations que l'on pourrait faire de lui seraient fausses. Il nous est en tant que création, créature, de saisir tout ce que peut être Dieu. Et la meilleure façon de se faire de comprendre et de saisir ce qu'est Dieu, c'est de contempler la personne de Jésus-Christ. Bien sûr, pas le Jésus-Christ que l'on trouve dans les émissions de télévision, mais celui dont nous fait le portrait la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit-Saint. L'enfant Jésus est Dieu lui-même, venu sous la forme, parmi les hommes, sous la forme d'un petit bébé. Un des premiers enseignements, comment Dieu nous parle à travers ce petit enfant, je crois que Dieu, c'est la vie. Dieu a choisi d'être un minuscule fœtus. Quand on suit bien le texte, on voit que l'ange apparaît à Marie. Il est précisé deux fois au début de l'intervention et à la fin que Élisabeth en était à son sixième mois de grossesse. Au sixième mois de grossesse. Et quand Marie va visiter Élisabeth, qui est à son sixième mois de grossesse, l'annonce a été annoncée quand elle avait 6 mois, et elle reste 3 mois avec Élisabeth, ce qui fait 9 mois. Et il semble qu'elle soit partie avant qu'Élisabeth ait accouché de Jean-Baptiste. Cela signifie que dès que l'ange a fait l'annonce, elle s'est rendue, et là, Élisabeth, qui a son enfant qui tressaille de joie, qui avait 6 mois dans son sein, il s'agit d'un minuscule fœtus, le plus petit que l'on peut imaginer, était là. Et donc la vie commence dès le commencement. Et pour les chrétiens, quand on parle de fœtus qui est déjà une personne, ben, quand on voit ces textes, on peut dire qu'il ne peut en être autrement. Il ne peut en être autrement. Jésus-Christ était une personne, était le Fils de Dieu, dès la conception, dès le commencement de la vie. Dieu, c'est la vie, Dieu, c'est la croissance, la multiplication. Le bébé va se développer, les cellules vont se multiplier, il va grandir, il va croître. Dieu déclare à travers toute la Bible que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un Dieu vivant, est un Dieu qui est vivant en opposition à toutes ces idoles que l'on adorait et que l'on adore encore, qui ne sont pas des statues actuellement, mais qui sont d'autres choses et qui sont mortes, qui ne sont éteintes, qui n'ont pas la vie en elles-mêmes. Dieu est un Dieu vivant. Et pourtant, Dieu ne change pas, il est immuable. Apprend-on par ailleurs, je crois que cette représentation, cet enfant que Dieu a choisi nous parle par rapport à cette idée que, voilà, dans le ciel, ce doit être très ennuyeux. Ce doit être toujours pareil, rien qui change, on doit s'ennuyer dans l'éternité. Mais là, la croissance de Jésus nous dit le contraire. Dieu, c'est la vie. Avec les enfants, on ne s'ennuie jamais. On ne peut pas s'ennuyer avec un enfant. C'est toujours un mouvement, et puis on les voit grandir, on le voit se développer, on le voit changer, et chaque jour, il se passe quelque chose de nouveau. Ce n'est pas du tout ennuyeux que de voir un enfant grandir, que ce soit dans le sein de la maman, que ce soit quand il grandit, qu'il se développe jusqu'à devenir un petit homme et un jeune homme. Sinon, ce n'est pas ennuyeux. La vie n'est pas ennuyeuse. Dieu n'est pas ennuyeux. Dieu n'est pas ennuyeux. Dieu, c'est la vie. Alors on peut s'émerveiller de tout cela. Après, il y a le texte de Siméon qu'on n'a pas vu quand il prend l'enfant Jésus dans ses bras. Il s'émerveille. Et nous pouvons nous émerveiller de Dieu, nous émerveiller tout à nouveau de Dieu, de ce qu'il est et qu'on ne pourra jamais saisir et dont on aura toute l'éternité pour découvrir. Dieu, c'est la vie. Dieu est aussi la source de joie, nous parle ce texte. La joie éclate dans tous les textes de la Nativité. C'était incroyable que la simple présence de ce petit fœtus dans Marie, rempli de joie, un autre bébé qui se trouve dans le sein d'Élisabeth et qui est contagieux, qui va remplir également de joie Élisabeth. La présence de Dieu remplie de joie. La présence de Dieu, c'est la communication de la joie. Et on a aussi après Marie qui se met elle aussi à exalter le Seigneur. Une joie qui se propage et qui est contagieuse. On a lu également que lors de la naissance, les anges sont dans la joie, les bergers sont dans la joie, les mages sont dans la joie. Tout respire la joie dans la présence de Dieu incarné. Alors, est-ce qu'on se fait la représentation d'un endroit ennuyeux de ce que peut être le ciel? Est-ce que ça va être un endroit ennuyeux de ce que c'est dans la présence de Dieu? Loin de là, loin de là. Quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie, dit le psaume 34 au verset 6. Dieu est source de joie, la présence de Dieu, c'est la source de la joie. Et celui qui l'exprime le mieux, c'est le Saint-Esprit qui est partout dans ce texte et qui transporte, nous amène, nous conduit à cette joie. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la source de la joie. Voyons voir un autre texte maintenant dans l'évangile de Matthieu. C'est le texte qui parle de la visite des mages, qui va nous parler encore de Dieu. Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Et ils lui dirent: à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit dans le prophète, par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple, l'exprès du prophète Michée. Verset 7. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi le savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ce qui me surprend dans ce texte, c'est que Dieu est surprenant. Il est surprenant. Et déjà, le fait de se confier entre les mains des hommes à travers un enfant, ça c'est extraordinaire. Là, l'enfant, il doit déjà être un petit peu grand. Hein, si on lit le texte qui suit, c'est plus un bébé naissant, c'est déjà un bébé qui est un petit peu plus grand que les mages visitent. Mais quoi de plus vulnérable qu'un enfant? Bon, moi je suis pas dans les questions des naissances des enfants, des maternités, tout ça, mais j'ai grandi dans une ferme et j'ai vu naître beaucoup de petits veaux. Et voilà, j'ai vraiment assisté à ça plusieurs fois avec mon père. Et là, on voit le veau et puis il vient de naître et puis la vache qui vient de veler commence à le lécher, tout ça, et au bout de quelques minutes, plop, ça y est, le voilà sur les pieds. Voilà, déjà prêt à prendre sa première tétée. Mais pour les hommes, c'est pas du tout comme ça. Pour les hommes, il faut vraiment beaucoup de temps. Et il faut beaucoup de soins. Et il faut beaucoup d'attention. Et ils sont très, très vulnérables quand ils sont petits et encore pendant de longs mois, voire de longues années. Un enfant de 1 an, peut-être, comme devait avoir l'enfant Jésus à ce moment-là, ben, il était entièrement, il s'est mis entièrement dans les mains des hommes, en quelque sorte, et ça c'est surprenant. Dieu s'est confié entièrement entre les mains de ses parents adoptifs. Et Dieu a choisi une famille adoptive très simple, très humble. On n'imaginait pas le grand roi promis, le Messie, le fils de David, arrivé dans une famille insignifiante. Mais oui, Marie et Joseph constituaient une famille insignifiante à ce moment-là. Et puis Dieu a fait naître son fils dans une étable, humilié une deuxième fois encore par sa naissance. Ils ne savaient pas trouver de place à l'auberge pour les recevoir. C'est pas un projet qu'ils avaient fait que d'avoir le bébé dans une étable. Mais Dieu a conduit pour les circonstances pour que son fils naisse dans une étable au milieu des animaux. Quand on réfléchit à ça, on se dit, mais je suis surpris. Comment cela peut-il être même imaginé? Dieu utilise les païens pour avertir son peuple de la naissance du Messie. Ce Messie qui était espéré depuis des siècles, c'était écrit, il devait venir, et tout Jérusalem et tout le peuple juif attendait la venue de ce Messie qui devait les délivrer du joug des Romains, pensait-il. Et voilà que ce sont des mages païens, on dirait aujourd'hui ce sont des scientifiques, voilà, qui arrivent, qui expliquent, ben voilà, je peux vous assurer que le Messie est né, et puis on voit toute Jérusalem qui s'émeut à cette nouvelle, notre texte dit, tout le monde, on peut imaginer que ça se répand comme une traînée de poudre. Et vous avez peut-être assisté à des pièces de théâtre, des scénettes ou des films qui parlent et qui relatent cet événement. Et puis, le lieu de la naissance, c'est pas Jérusalem, c'est à Bethléem, donc il faut qu'ils aillent à Bethléem. Et là, on est tellement surpris que personne ne les accompagne. Pas une personne qui ne les accompagne pour être curieux, pour voir, mais où finalement ce Messie dont on nous parle, il est où, à quoi il ressemble, où est-ce qu'il se trouve? Pas une personne ne suive les mages au chevet de l'enfant Jésus. Ça aussi c'est complètement surprenant quand on connaît l'ancienne alliance, quand on connaît le zèle du peuple juif, et quand on se dit mais incompréhensible. Dieu est surprenant. Alors, avons-nous encore l'image d'un Dieu ennuyeux? C'est toujours avec nos problèmes de représentation. Dieu ne veut pas qu'on se le représente. Et pourtant, les hommes l'ont fait. Hein. La chapelle Sixtine a été peinte. La Michel-Ange a fait une belle peinture. Vous savez, la peinture de la création d'Adam et Ève. Et puis voilà, il a représenté un barbu. Un vieux barbu. Voilà, Dieu, c'est un vieux barbu. Les vieux barbus, ils sont ennuyeux. C'est l'idée qu'on se fait et qui sont fausses. Dieu est surprenant. On ne s'ennuie pas. On ne peut pas imaginer que l'on s'ennuie dans la présence de Dieu. Un autre enseignement de ce texte pour nous ce matin. Ça semble tellement évident, mais Dieu aime l'humilité. Dieu aime l'humilité et il donne l'exemple en naissant dans une mangeoire d'animal. Dieu s'est fait tellement humble et c'est un symbole qui doit nous parler ce matin profondément, mais on sait ces choses intellectuellement. Mais combien ça a du mal à pénétrer dans notre cœur que Dieu aime l'humilité et il montre l'exemple en faisant naître son fils de la façon la plus humble que l'on puisse imaginer. Dieu aime l'humilité. Et nous, on le sait, mais il y a Placide Capot qui a composé ce chant Minuit chrétien. Et c'est un chant qui a été repris dans le monde entier. Et il a 3 couplets, mais on chante que 2. On chante le premier et le troisième. Le second couplet, j'ai regardé sur internet, j'ai été curieux de voir. C'est beaucoup de chants d'interprétation de chants de Noël avec des personnes bien habillées, des cantatrices, un bel orchestre, tout le monde a sa bonne tenue, son petit nœud papillon, et voilà, la salle est bien attentive et tout le monde est tellement heureux d'écouter chanter Minuit chrétien. Mais le couplet 2 n'est pas chanté. Et j'ai passé des dizaines de chants, 2 fois. Et puis, non, c'est rare. Il y en a quelques-uns où le couplet 2 est présent, mais généralement, le couplet 2 est absent. Qu'est-ce qu'il dit, ce couplet 2 ? De notre foi, que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant, comme autrefois une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Il s'agit de notre passage. Le roi des rois naît dans une humble crèche. Puissant du jour, fier de votre grandeur, à votre orgueil, c'est de là que Dieu prêche. Courbez vos fronts devant le Rédempteur. Voilà un couplet qui est censuré. Et même encore aujourd'hui, non, ce couplet-là, il dit qu'il faut aller s'humilier devant celui qui s'est humilié, nous humilier encore davantage. À votre orgueil, c'est de là que Dieu prêche. Et quel autre merveilleux sermon sur l'humilité Dieu pouvait-il nous faire que celui-ci, que le spectacle de l'enfant dans la crèche, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Rédempteur, celui qui allait porter sur ses épaules le péché entier de l'humanité, il est là, dans une étable, dans une mangeoire d'animal. Dieu aime l'humilité. Dieu veut pour nous l'humilité. Dieu est digne d'adoration. C'est la dernière leçon que je retiendrait pour nous. Dieu est digne d'adoration. On voit ces mages qui sont certainement des personnages prestigieux qui viennent d'Orient. Ils viennent pas, voilà, en claquette et voilà avec un sac à dos. Et, non, ils viennent Aujourd'hui, ce serait, si on les imaginait, ce serait tout un convoi qui arriverait peut-être avec de belles voitures ou avec un jet privé qui atterrit là, chacun son jet à Jérusalem. Là, ça en jette, hein, des gens qui étaient prestigieux. Et on les voit, ces personnes-là, qui tombent. C'est le mot, comment c'est écrit? Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant et Marie, sa mère, se prosternèrent, ils adorèrent. Ce mot se prosterner, c'est ils tombent. Ils tombent devant lui. Et il a rajouté, ils l'adorent, mais ils se mettent à plat ventre devant lui. Toute tout ce qu'ils peuvent avoir, ils le posent, devant cet enfant. Dieu est digne d'adoration. Il y a un autre moment, vous le savez, où des hommes vont tomber devant Jésus-Christ. Ce sera le moment où il va être trahi à la croix et quand il déclarera à celui qui venait le chercher, je suis. Toutes ces personnes qui étaient là avec Judas pour venir se saisir, attraper Jésus, vont tomber à terre. Devant la majesté divine, on ne peut que s'aplatir. On ne peut que s'écraser. Et c'est là ce qu'ont fait les mages qui nous laissent un bel exemple. Les mages adorent Jésus-Christ et s'il est une autre témoin de la divinité de Jésus-Christ, c'est que il est adoré à ce moment-là. Il lui donne des cadeaux de bienvenue, donc l'or, hein, l'encens et la myrrhe. Alors c'est un peu compliqué de savoir ce que représentent ces cadeaux, mais bon, l'or ça a de la valeur. L'encens, c'est ce qui est agréable à Dieu, ce qui était offert à Dieu, qui était brûlé comme parfum. Et la myrrhe, c'était plutôt le parfum pour les hommes. C'était plutôt ce qui était agréable aux hommes. Et Jésus-Christ est là comme un enfant qui a une infinie valeur, qui va être agréable à Dieu et qui va être agréable aux hommes. Dieu est digne d'adoration. Alors je vais m'arrêter là. Une conclusion. Dieu, Noël, dont Dieu nous parle de ce qu'il aime. Alors Dieu aime la vie. Dieu, il aime la joie. Dieu, il est pas contre ce qui est, il est pas pour ce qui est ennuyeux. C'est pas le Dieu de la nuit. Et Dieu aime l'humilité. Et Dieu aime qu'on l'adore. Alors, des fois, il n'y a rien d'autre à faire que ça. Il n'était pas demandé autre chose à ceux qui étaient devant le spectacle de la venue de Jésus que d'être dans la joie, d'être dans l'humilité et que de l'adorer, que de le remercier, que de lui dire merci. Et s'il n'y a rien d'autre qu'on soit, se sente capable de faire devant la venue de Jésus-Christ, on peut faire ça. On peut imiter ces rois mages qui, voilà, ils ont compris, je pense, et ils ont fait ce que Dieu attendait d'eux. C'est un bel exemple, je crois, pour suivre et que cette pensée de ce que Dieu nous parle à travers ce moment de Noël puisse nous accompagner également dans la façon dont on va vivre cette fête. On va la vivre, je ne connais pas tout le monde, mais on va la vivre tous d'une façon différente. Les années passent, comme on dit, les Noëls ne se ressemblent pas. On peut garder des très bons souvenirs, on peut avoir des très mauvais souvenirs de cette période-là, et on peut dire, mais qu'est-ce que comment je le vis encore cette année, comment je vais le vivre. On peut le vivre avec cette pensée de la joie. La joie, ce qui donne la joie, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu donne la joie, une joie qui n'est pas ennuyante, s'incliner devant Dieu, qui n'est pas ennuyant, loin de là, mais qui, dans notre humilité, nous accueille et accepte tous ce qu'on peut lui donner. Petit enfant, là, vous savez, c'est simple, un enfant, et on raconte beaucoup l'histoire de cet enfant c'est un pays, un missionnaire qui racontait ça, et il y avait une quête qui était faite, et voilà, chacun mettait un peu d'argent pour le Seigneur, et cet enfant, lui, il s'est mis lui-même, il est rentré il s'est assis dans l'endroit où on mettait les offrandes. Et il s'est mis là, et il a donné sa vie, il a donné ce qu'il pouvait. Et nous, on n'a peut-être pas grand-chose, mais on peut vraiment donner, l'adorer avec ce que nous avons et vivre un Noël où nous sommes remplis de la joie que Dieu donne. Amen. Merci Seigneur pour ce message de Noël. Merci de nous revisiter année après année avec le souvenir de la naissance et de la venue de cet enfant, la façon dont il est né, qui il était, comment il est né, la façon dont il a été accueilli et la façon dont tu veux que nous l'accueillons. Seigneur, que Noël puisse être pour chacun de nous un moment de joie à cause de toi. Dans le nom de Jésus. Amen.